Depuis quelques années maintenant, une redondante mélodie vient régulièrement nous chatouiller les oreilles. Les comics ne représenteraient que 4% du marché de la bande dessinée en France. Outre le fait que ce chiffre est relativement soumis à caution, la faute au classement parfois très arbitraire de certaines productions venues des USA dans la case BD de genre ou BD jeunesse, et je vous renvoie vers l'excellente série d'articles de Comics Blog avec Xavier Gilbert pour plus de détails, je crois surtout que remettre perpétuellement ce pourcentage sur le tapis est contre-productif. Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris, ensemble on parle comics et culture populaire, et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va revenir sur la difficulté d'accès à la bande dessinée américaine et à la culture comics en France. Avant de commencer, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, de Spotify à iTunes en passant par Deezer, YouTube Music ou Podcast Addict. N'hésitez pas à lâcher des likes, des étoiles et à partager l'émission autour de vous pour soutenir mon travail. Si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi souscrire à un abonnement mensuel ou annuel sur Substack pour m'aider à bosser dans de meilleures conditions. Et si vous voulez lire les bouquins recommandés dans cet épisode, vous trouverez dans la description tous les liens utiles pour vous les procurer en deux clics chez nos amis de Comic Zone. Maintenant que la réclame est faite, passons aux choses sérieuses. Si avoir une vision claire, précise et régulièrement actualisée de l'état du marché me semble indispensable, les discours visant à promouvoir ou à défendre les comics ne peuvent pas avoir pour principal argument le fait que la bande dessinée américaine est un sujet de niche qui n'intéresse qu'un tout petit groupe de lecteurs et de lectrices. Premièrement, parce que ça ne fait pas rêver de se dire qu'on se lance dans une activité de divertissement dont l'écosystème serait moribond, ce que ce chiffre de 4% laisse clairement imaginer à des néophytes. Et si je comprends que la symbolique est forte, c'est à mes yeux une fausse bonne idée. Parce que faire la promotion de quelque chose en construisant sa démonstration sur la preuve chiffrée que ça n'intéresse pas les gens ou que ça ne marche pas commercialement, ça peut être plus rebutant qu'autre chose pour quelqu'un qui aurait la curiosité de se renseigner sur le sujet. De toute évidence, il vaut mieux se baser sur des éléments positifs pour parler de comics aux gens. Et de mon point de vue, c'est pas ce qui manque. Richesse des univers, diversité des personnages, des genres, des intrigues, la liste est pratiquement infinie et c'est sans compter sur tous les cas pratiques de films ou de séries à succès qui s'inspirent des classiques de la bande dessinée américaine. Bien sûr, on opposera à tout ça une énumération des difficultés d'accès aux comic books, avec en premier lieu le fameux problème de la continuité qui rendrait inutilement complexes les premiers pas du lectorat débutant. Certes, la continuité peut prendre des airs de gigantesques monstres tentaculaires, mais elle participe en grande partie à la richesse des univers qui nous passionnent, et je crois qu'elle tend aussi à attiser la curiosité des lecteurs. Comme je l'ai déjà raconté dans l'épisode consacré à mes premiers comics, l'aspect lacunaire de ce qui m'était présenté quand j'ai commencé à lire de la BD de super-héros m'a aussi donné envie d'en lire plus pour tout comprendre, à une époque où l'accès aux récits plus anciens était bien plus compliqué que de nos jours. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a aujourd'hui autant de récits indépendants que de séries au long cours dans la bande dessinée américaine, et que le point noir que peut représenter la continuité aux yeux de certains concerne plus particulièrement Marvel et DC Comics, et exceptionnellement quelques séries indépendantes à la longévité remarquable. En gros, si le problème existe, il est plutôt facile à contourner, et il ne constitue sûrement pas un obstacle infranchissable pour peu que l'on accepte de ne pas avoir toutes les clés de compréhension dès le départ. La solution tient sûrement dans une approche globale, indissociable de la continuité, qui consiste à l'appréhender comme une forme d'intrigue générale que vous pourrez déchiffrer avec le temps au fil de vos lectures. D'ailleurs, il est aussi intéressant de souligner que, quand des lecteurs de longue date accusent la prétendue piètre qualité des comics produits actuellement d'être l'une des causes du désintérêt du public, ils évoquent principalement Marvel et DC, comme si eux-mêmes n'avaient pas fait la démarche d'être plus curieux et d'aller lire autre chose. Je dois vous avouer que je trouve ça d'autant plus drôle de voir des vieux de la vieille assénés sans sourciller que les comics de leur jeunesse étaient bien meilleurs que ceux d'aujourd'hui, tout en sachant que leur référence est ce qui était publié à l'époque chez Lug, dont on sait que le contenu était parfois largement charcuté et censuré par l'éditeur, et ce jusque dans les années 1990, par peur de sanctions de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse. Alors vous avez totalement le droit de préférer les comics de votre enfance ou de votre adolescence à ceux qui sortent aujourd'hui, mais votre attachement et votre nostalgie ne font pas de votre préférence une vérité absolue. Quand bien même certaines séries actuelles seraient moins qualitatives à vos yeux, ça n'enlève absolument rien à ce que vous avez pu aimer, et passer votre temps à répéter que les comics actuels sont mauvais n'aura pas d'autre effet que de décourager les personnes qui voudraient se lancer, et donc qui auraient potentiellement pu découvrir par la suite ce que vous, vous avez apprécié. Encore une fois, on ne peut pas valoriser une culture en listant ce que l'on considère comme des défauts, ni en l'opposant à une autre. Alors pourquoi faudrait-il nécessairement comparer les comics des années 70 et 80 à ceux des années 2010 ou 2020 ? Est-ce que quand on s'intéresse vraiment à la BD, on ne doit pas aussi s'intéresser à son histoire, à son évolution et aux thématiques qu'elle balaye au fil du temps ? Et ça me semble d'autant plus vrai dans le cas des comic books, dont on sait qu'ils se sont toujours fortement inspirés du contexte social et politique contemporain de leur publication. L'autre sujet qui anime les débats, c'est le prix des comics. On ne va pas se mentir, lire de la BD, ça coûte cher, mais c'est un constat valable pour à peu près toutes les passions que vous pourriez pratiquer. Qu'il s'agisse d'un sport, d'une activité culturelle, d'une collection, ou d'un peu de tout ça à la fois, avoir une passion, ça coûte souvent très cher, et lire des comics se range dans la catégorie que l'on nomme, avec plus ou moins d'ironie, les loisirs de riches. Évidemment, dans un monde idéal où on aurait droit à une vraie justice sociale et à un système économique plus équitable, l'accès à la culture serait facilité, plutôt que d'être systématiquement remis en cause par des élus déconnectés qui ne savent faire que du nivellement par le bas tant qu'ils ne sont pas concernés. Mais je ne vous apprends pas que c'est une utopie encore lointaine. Si les formats sont de plus en plus beaux, ils sont aussi de plus en plus coûteux, et il est souvent impératif de faire des choix et de prioriser ses achats si on veut respecter son budget. D'un autre côté, rationaliser sa consommation de comics n'est sûrement pas un mal, tout comme se tourner vers le marché de l'occasion pour donner une deuxième vie à des ouvrages qu'il mérite. Déjà parce qu'il y a un petit aspect écologique là-dedans qui est toujours bon à prendre, et puis parce que ça permet peut-être aussi de mieux apprécier ses lectures en sachant qu'on a acheté ses bouquins parce qu'on en avait vraiment envie. Beaucoup d'influenceurs participent, parfois malgré eux, à cette éternelle mise en avant de leurs dépenses et des comics qui s'entassent sans être lus. Une image qui est presque effrayante pour un non-initié dont le budget n'est pas extensible à l'infini. Il n'est pas rare de voir des lecteurs claquer chaque mois des centaines d'euros dans des livres qu'ils n'auront pas matériellement le temps de lire. Loin de moi l'idée de les blâmer, car dans cet enfer de la collectionnite, on entrevoit désormais l'inévitable course aux likes et autres joyeusetés imposées par les réseaux sociaux. Les comics deviennent presque des achats de principe, comme si tout posséder était une nécessité absolue pour embellir son quotidien. Mais retenez quand même que si l'achat d'un livre vous met en colère, vous gâche votre journée, ou pire, vous met en galère de thunes, c'est qu'il est temps de lever le pied. Si les fans se plaignent du prix des bouquins, ce qui peut s'entendre dans un contexte économique toujours plus difficile, il ne faut pas oublier que les éditeurs redoublent d'efforts pour proposer des offres accessibles au plus grand nombre. Et donc, par extension, aux potentiels nouveaux lecteurs qui voudraient trouver une porte d'entrée à l'univers des comics sans avoir à vendre un organe. Avec les collections Urban Nomad chez Urban Comics et Marvel Pocket chez Panini Comics, celles et ceux qui voudraient découvrir la bande dessinée américaine peuvent déjà profiter de pas mal de titres cultes pour moins d'une dizaine d'euros. Et si le format réduit présente sûrement plein de défauts pour les puristes prêts à mettre le prix fort dans des formats plus luxueux, il ne faut pas oublier que ces collections ont pour but de démocratiser le comic book, et donc de toucher un public bien plus large que la minuscule niche de fans hardcore amoureux des beaux livres. De mon côté, bien que lecteur de longue date, la collection Nomad m'a permis de lire des séries comme Y, le dernier homme, que je n'aurais peut-être pas acheté en grand format compte tenu de l'investissement que ça représente. Donc j'ai tendance à croire que tout le monde peut trouver son bonheur dans ces initiatives. Si vous voulez découvrir le genre super-héroïque dans ce qu'il a de plus efficace, Ultimate Spider-Man, dans la collection Marvel Pocket, est aujourd'hui un standard absolu de ce que doit être la relecture modernisée d'un personnage classique. Même si la série de Brian Michael Bendis et Mark Bagley affiche deux décennies au compteur, elle reste à la fois très divertissante et tout à fait accessible, même si vous n'y connaissez absolument rien en comics. Elle a l'avantage de revisiter l'histoire de Peter Parker, que tout le monde presque connaît aujourd'hui, sans souffrir de l'aspect daté des publications Marvel du Silver Age, dont la partie graphique et le ton peuvent faire fuir les néophytes et les plus jeunes. À côté de ça, et toujours pour moins de 10 balles, Marvel Pocket propose également de découvrir Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch, une version beaucoup plus sulfureuse et politisée des Avengers, qui me paraît justement ultra pertinente si vous êtes lassé de l'aspect lisse et aseptisé du MCU. Aujourd'hui, la série est un peu dans son jus, mais elle reste une très belle démonstration de la façon dont le comic book de super-héros mainstream essaie régulièrement de se réinventer en capturant l'air du temps. Et puis, on retrouve dans cette collection le désormais incontournable The Boys de Garth Ennis et Derek Robertson. L'adaptation live sur Prime Video, qui s'est imposée comme une sorte d'anti-MCU pour beaucoup d'adeptes de films de super-héros qui commençaient à se lasser de la recette, a offert une deuxième jeunesse au comic book original. Et à titre tout à fait personnel, je trouve que grâce à la réactualisation de ces thématiques, la série diffusée sur Prime arrive à être meilleure que le matériau d'origine, ce qui en fait un cas pratiquement unique parmi les adaptations de comics. Mais la bande dessinée reste quand même une pépite méta et irrévérencieuse qui pousse les curseurs du trash et de la parodie toujours plus loin pour notre plus grand plaisir, et sa lecture s'avère assez indispensable. Chez Urban Comics, et encore une fois pour un prix modique, la collection Nomade propose une sacrée liste de classiques instantanés de la bande dessinée américaine, toute époque confondue. V pour Vendetta, Batman Un Long Halloween, Mr. Miracle, Nous 3 ou Superman Red Son, que vous soyez fan de super-héros, de science-fiction, de polar, de fantasy ou de fiction plus politique ou intimiste, le petit format de Urban vise un maxi-public de lecteurs et de lectrices, qui pourra par la suite se plonger dans des œuvres aussi brillantes que Watchmen ou Planetary. Et même si certains pourront se plaindre du fait que le format poche ne met pas en valeur les planches de tel ou tel artiste, ou complique la lisibilité de certains passages, eh bien c'est une contrepartie inévitable compte tenu du prix proposé par Panini et Urban, qui me semble négligeable en comparaison de comment ces collections amorcent une démocratisation unique en son genre de la bande dessinée américaine chez nous, auprès d'un tout nouveau lectorat qui cherche avant tout des bouquins accessibles en termes de prix. Là encore, il en faut pour tout le monde. Que des gens lisent ces petits formats n'enlève rien à votre passion pour les bibliothèques remplies de grands albums de luxe cartonnés. Les reproches faits aux petits formats sont d'autant plus contradictoires que, d'un autre côté, il subsiste une communauté d'irréductibles prêchant le retour du format kiosque. Le kiosque, une légende glorifiée dont le format et la qualité de fabrication permettaient certes de limiter le prix à la caisse, mais qui a fini par disparaître, tant pour des raisons de coûts de distribution que d'évolution des modes de consommation. En ce qui concerne l'accessibilité, l'idée selon laquelle les kiosques étaient disponibles plus facilement est là encore assez idéalisée. En effet, depuis pas mal de temps, suite à mes articles traitant de comics dans les années 1990, je reçois de plus en plus de témoignages de gens qui galéraient à suivre des séries en kiosque, faute de régularité dans la distribution des fascicules chez leurs marchands de journaux. Sans compter qu'aujourd'hui, les points de distribution de presse et autres buralistes ont tendance à se faire beaucoup plus rares, et que les gens ne les fréquentent plus comme avant. Nos habitudes changent à tous les niveaux, et le marché de la bande dessinée doit s'y adapter lui aussi. Le bon vieux temps des kiosques n'est plus, et que l'on considère cela comme une bonne ou une mauvaise chose, faire machine arrière n'est clairement pas viable pour le moment. Il est intéressant de noter que, si l'on creuse un peu, certaines solutions finissent également par s'opposer. La périodicité des kiosques ne faisant par exemple que rendre encore plus prégnants les travers de la continuité, en comparaison du format librairie qui rend l'accès au volume précédent plus aisé. En gros, si vous en doutiez, il n'y a pas de formule magique, et trouver celle qui fonctionne le mieux est un véritable défi qui ferait vaciller le meilleur des équilibristes. Et puis, en dernier lieu, est-ce qu'il ne faudrait tout simplement pas accepter que les comics, ça n'intéresse pas les gens ? Sans aucun jugement de valeur, il y a énormément de choses auxquelles je ne m'intéresse pas dans la vie, parfois simplement par manque de temps. Et quand bien même vous pourriez me démontrer par tous les moyens possibles que cette activité que vous adorez est géniale et passionnante, il est peu probable que je parvienne à consacrer du temps et de l'argent à celle-ci, déjà parce que je ne peux pas être partout à la fois, et aussi tout simplement parce qu'elle ne correspond peut-être en rien au centre d'intérêt que je peux avoir dans la vie. L'espèce de prosélytisme permanent dont devraient faire preuve les fans de comics pour mettre en avant leur passion ne part jamais d'un mauvais sentiment, mais il est souvent vain, principalement parce que cette passion pour les comics ne vient pas de nulle part. Elle est le fruit d'un parcours culturel et social qui fait que, de fil en aiguille, vous en êtes arrivé à lire des comics. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut accepter que les gens se foutent royalement de ce qui vous fait vibrer et qu'ils ne changeront d'avis sous aucun prétexte, aussi convaincant que vous puissiez l'être, tout simplement parce que leur histoire est différente. Alors oui, c'est frustrant, mais c'est aussi ce qui fait la richesse et la diversité de nos échanges en tant qu'êtres humains. Un monde où tout le monde partagerait un amour inconditionnel pour une même activité, et bah perso, moi ça me fait plutôt flipper. C'est pour ça que même si c'est super de vouloir faire découvrir ce que l'on aime aux autres, eh bien je vous conseillerais de kiffer de temps en temps votre passion pour votre propre plaisir, sans forcément chercher à tout prix à la partager. Il y a peut-être des gens qui seront offensés à l'écoute de cet épisode au titre malicieusement provocateur. Et sans mentir, j'ai pas mal hésité avant de le publier, parce que je m'attends carrément à des retours agressifs et même violents d'une partie de la communauté des fans de comics. Mais premièrement, mon objectif initial n'est absolument pas de vexer qui que ce soit. Et deuxièmement, je crois que c'est important de savoir remettre en question nos façons de faire en tant que lecteur de comics, cherchant à tout prix à propager notre passion, notamment parce que tout va très vite sur Internet et que tout le monde ne passe pas forcément son temps à comparer les sources. Et puis, le simple fait que j'appréhende m'exprimer sur ce sujet en dit déjà long sur le besoin global de remise en question de nos comportements. Moi le premier, avec le recul, il y a certains sujets que j'ai pu traiter et pour lesquels l'angle choisi n'était certainement pas le bon. Ça fait plus de 10 ans que je parle de comics sur le web, et sans surprise, ma façon de faire et de penser, et mes méthodes de travail ont évolué avec le temps, et elles ne sont plus les mêmes qu'à mes débuts. Il me semble d'ailleurs inconcevable de se dire qu'on passe notre temps à critiquer les comics, et les films et les séries qui en sont tirés, sans jamais pratiquer notre propre autocritique. Si les artistes, les scénaristes et les réalisateurs qui produisent ce qui alimente notre passion sont faillibles, eh bien nous ne le sommes pas moins. À titre personnel, je ne prétends pas détenir la vérité absolue, ou même une quelconque solution miracle. Mais j'essaie d'apporter ma vision de façon constructive, en espérant que ça pourra peut-être alimenter la réflexion d'autres personnes qui en feront de même, et ainsi de suite. J'ose croire que les lecteurs et les lectrices francophones sont assez sensés et éclairés pour participer, chacun et chacune à leur échelle, à l'amélioration du discours global visant à défendre notre centre d'intérêt commun, et ce, malgré des désaccords qui découlent de la diversité de la communauté que nous formons, parfois bon gré mal gré. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les réseaux sociaux, tous les liens utiles sont dans la description de l'épisode. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast et partagez l'émission autour de vous, moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur Substack, et évidemment jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.